Les chapitres suivants, le mendiant de Grenade, la maison des pauvres et un hôpital d'avant-garde. De retour à Grenade, Jean a sous les yeux le spectacle des plus navrantes misères. En plein jour, et peut-être plus encore, à l'approche de la nuit, on voit se traîner dans les rues des infirmes, des estropiés, des affamés au corps décharné, des gens à peine vêtus, hâves et transis de froid. Certains ont des plaies purulentes, des ulcères. Ces sans-logis couchent sous des portiques ou dans d'infectes réduits, à moins qu'on ne les chasse pendant que les grenadins aisés s'enferment dans leurs maisons confortables. Jean a le cœur déchiré par tant de détresse, livré à un complet abandon. Il est sans ressources et ne peut compter sur personne encore, mais il est réaliste. Il attaque l'effort à sa portée, ramasser du bois mort sur une colline voisine. Il le vend bien, ce bois étant recherché en Andalousie. Les flâneurs le raillent et lui crient « Alors, te voilà devenu marchand de bois ?» Sans se troubler, Jean continue sa petite industrie et dès qu'il peut acheter du pain, cherche des pauvres pour le leur donner. Peu à peu, les railleurs se taisent. Ce pauvre qui travaille et quête pour aider du plus pauvre que lui, dont personne ne se soucie, finit par inquiéter les consciences et réussit même à en réveiller quelques-unes. Des personnes censées touchées par les misères qui leur deviennent évidentes et par la charité de Jean, lui confie des aumônes à distribuer. Il peut alors visiter et soigner les pauvres. Ceux-ci l'ont vite repéré et ils accourent vers lui dès qu'ils l'aperçoivent. Jean a maintenant quelques bienfaiteurs qui ont compris l'idéal dont il s'inspire. Quelquefois, ses protégés lui attirent des ennuis. On dit qu'un riche marchand, pour éviter à Jean de coucher sous les ponts, lui avait proposé une mansarde chez lui. Quelle imprudence ! Un jour, des mendiants, mourant de faim, viennent supplier Jean de les secourir. Désolé de ne rien posséder, car il ne sait rien garder pour lui, il cherche en vain le maître de la maison et le cuisinier, tous deux absents. Pressé par les quémandeurs et cédant à la pitié, il descend à la cuisine où flottent des odeurs alléchantes. Des mets sont déjà préparés. Sans perdre un instant, les affamés s'en emparent et Jean, pensant qu'ils sont dans une grande nécessité, ne croit pas devoir s'y opposer. Rassasiés, les convives improvisés disparaissent et le cuisinier revient. Stupéfait de retrouver des plats vides, il crie avec indignation « Au voleur !» Le maître de maison, alerté par ces clameurs, constate lui aussi que le repas s'est envolé. Jean, consterné, s'offre à réparer le dommage. Il est expulsé. Mais on dit que le marchand regrettera sa colère et devint un bienfaiteur. Bien qu'il vive à la manière des oiseaux du ciel, Jean n'oublie pas l'hôpital qu'il veut fonder. Dans ses fréquentes et ferventes prières, il demande au Seigneur de lui procurer une maison. Comme toute vraie prière, la sienne est enfin exaucée. Un jour, en sortant de l'église, il remarque un singulier écriteau cloué à une porte près du marché aux poissons. Maison à louer pour les pauvres. Il examine ce local, peu luxueux, et voit qu'il est possible d'en tirer parti. Cette maison sera le premier refuge de ces chers pauvres. Des dons arrivent à point pour couvrir le montant de l'allocation. L'ameublement sera payé par un prêtre de la chapelle royale qui verse à Jean une somme suffisante. Le départ s'annonce favorable. Jean achète 46 lits, garnis d'une literie convenable. Au-dessus de chacun d'eux, au mur, il fixe une petite croix de bois. Il organise la cuisine et rassemble quelques provisions. L'essentiel est prêt pour accueillir les sans-logis. Jean court les chercher. Dehors, un vent glacial souffle des montagnes. Les miséreux grelottants sont faciles à trouver car ils ne savent où se terrer. Jean les appelle. « Venez avec moi !» Ces créatures en guenilles le suivent d'une marche vacillante à travers les ruelles. Le cortège où les infirmes se traînent sur des béquilles ne cesse de grossir jusqu'à l'entrée de la maison du marché aux poissons. Là, ils s'arrêtent et chacun attend. Jean pousse la porte et annonce, ému et joyeux, « Mes amis, entrez, cette maison est à vous. » Ces êtres pitoyables et dépenaillés, pour qui la misère est devenue une seconde nature, se regardent incrédules. Pourtant, ils s'avancent, pénètrent dans les salles où brûle un bon feu, où des flambeaux sont allumés et des tables dressées. Incroyable mais vrai. Une maison s'ouvre pour eux, un repas, un lit les attendent. Mais est-ce bien pour eux? Est-ce un rêve ou un miracle? J'en souris et leur dis, mes frères, c'est Dieu qui vous reçoit. Voici la maison de la miséricorde. Soyez-y les bienvenus. Remercions Dieu qui nous la donne. Alors, parias et loqueteux joignent les mains, et plus d'un retrouve dans sa mémoire les bribes d'une prière oubliée depuis bien longtemps. À dater de ce jour, la maison est pleine, et il se présente toujours plus de malades qu'il n'y a de place disponible. Jean, par son autorité ferme et douce, fait régner peu à peu l'ordre et la paix dans cette singulière communauté. Et pour assurer le bon fonctionnement de l'hôpital, il déploie une prodigieuse activité. De son séjour en divers hôpitaux, il a dégagé quelques bonnes expériences. Il sait discerner les maladies, panser les plaies, administrer des soins, pourvoir aux services matériels, intendance, tenue des locaux. Jean obtient le concours de médecins qui viennent visiter chaque jour les malades. De plus, il introduit une innovation importante. Il répartit les hospitalisés dans des salles différentes, selon les infirmités ou maladies dont ils souffrent. Partout ailleurs, on pratique le mélange, malgré le danger grave que représentent les contagieux. De même, Jean exige que chacun ait son lit, au lieu de mettre, comme on le fait dans bien des hôpitaux, plusieurs malades dans le même lit. Les repas sont servis à des heures régulières, l'air est constamment renouvelé, les locaux sont tenus en état de propreté parfaite. Les malades sont traités en hommes et non en déchets. Ces changements, hardis pour l'époque, font de l'hôpital fondé par Jean un centre sanitaire d'avant-garde qui a préparé les progrès réalisés au siècle suivant dans les établissements hospitaliers. Les soins que Jean prodigue à ses malades ne lui font pas oublier leur âme, ni la vie éternelle qui importe infiniment plus que celle du corps. Il s'efforce donc de les aider à se comporter en vrais enfants de Dieu. Le matin, il entre dans les salles en disant joyeusement à ceux qui les occupent « Mes frères, remercions le Seigneur qui nous a protégés durant cette nuit. » Ainsi font les petits oiseaux qui commencent leur journée en chantant. Après la prière du matin, suivie d'une brève méditation, Jean visite chacun de ses malades. Dès qu'il en arrive un à l'hôpital et qu'il a reçu les premiers soins, il vient le voir. Avec l'aimable douceur et le grand respect qu'il témoigne à tous, il propose au nouveau venu de recevoir un prêtre qui l'aidera à mettre en paix sa conscience. D'ailleurs, cette paix contribuera à son rétablissement. Des prêtres se chargent d'assurer ses charitables visites. Ils rassurent, consolent les malades, parfois ils les instruisent des vérités de la foi. Ceux qui ne peuvent guérir, ils les aident à vivre leur épreuve dans la sérénité, puis à mourir dans la confiance en Dieu. Au début, Jean n'est aidé que par quelques indigents valides, et il assume par lui-même un énorme labeur. À ses multiples occupations, soins des malades, fonctionnement de l'hôpital, s'ajoute un souci permanent et pressant. Les ressources à trouver, car les dépenses sont très lourdes, et il vient un moment où les aumônes ne suffisent plus. Après sa journée de travail, aux heures calmes de la soirée, pendant que les malades reposent, Jean s'en va seul. Il porte une hotte sur le dos, et à ses côtés pendent deux immenses marmites. Ainsi équipé, il parcourt les rues et les places de Grenade en criant « Mes frères, faites-vous du bien à vous-même pour l'amour de Dieu ». Intrigué par cette curieuse exhortation, des gens accourent aux fenêtres croyant à une plaisanterie. Au départ, la quête est infructueuse, mais la persévérance de Jean triomphe. On découvre son œuvre, les cœurs s'émeuvent et les dons deviennent abondants. Sa tournée achevée, il rapporte à l'hôpital son chargement, pain, provisions, argent et vêtements. Où Jean peut-il puiser la force de mener de front des tâches auxquelles plusieurs personnes suffiraient à peine? Cette force, il la trouve dans la prière. Chaque matin, il assiste à la messe avec une grande ferveur. Durant la journée, il reste uni au Seigneur par le don généreux de lui-même, par un recours filial et constant à la grâce, source divine de foi et de charité. Le soir, quand tous reposent, Jean prolonge sa prière d'adoration et de louange. Il implore Dieu pour ses protégés et pour ses bienfaiteurs. Comme saint Paul, il peut vraiment dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». La tradition attribue à Jean de Dieu des faits miraculeux qui, sans constituer des articles de foi, ne peuvent être passés sous silence. Une nuit, soudain, l'eau se tarit au puits où s'approvisionne l'hôpital. Jean doit aller en tirer à une fontaine éloignée. Quel retard subira son labeur quotidien? Pourtant, à son retour, il voit tous les travaux achevés. Qui donc les a faits? Demande-t-il. Mais, père, c'est vous-même, déclarent les malades étonnés. Nous vous avons vu à l'ouvrage, durant toute la matinée,